France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Comme prévu après le Bas-Rhin, nous vous présentons une série d'initiatives en provenance du Haut-Rhin. On ne sera pas beaucoup déplacé, mais comme on ne fait pas les choses comme ailleurs en Alsace, nous allons découvrir de nouveaux métiers associés à l'environnement. C'est le cas à la Maison de la Nature du Sungo, dans le sud Alsace, qui est une des animatrices indispensables de la gestion de l'environnement. Ensuite, nous découvrirons le travail de recherche réalisé depuis plus de 15 ans par le RAMO. Il s'agit d'un laboratoire de recherche sur les alliances publiques-privées qui apporte des solutions aux questions économiques, sociales et environnementales. Le RAMO vient de publier une étude d'impact sur 1000 exemples inspirants.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Chantal Le Chanoni, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand, comment allez-vous ?
Bien, et je suis ravi de vous entendre à nouveau. Nous nous étions rencontrés à Mulhouse. Vous êtes une des fondatrices de la Maison de la Nature, la Maison de la Nature du Sungao. Quel est le contexte naturel, environnemental du Sungao ?
Alors écoutez, c'est une région où j'espère que les gens auront envie d'aller. C'est donc à la frontière de la Suisse. Et puis d'un autre côté du territoire de Belfort, c'est une région très jolie, très vallonnée, avec des centaines d'étangs et surtout une très très jolie rivière qui s'appelle la Largue. Et notre rivière a une particularité, c'est qu'elle est protégée par une autre association qui se situe dans notre maison de la nature, qui s'appelle l'Épage. Et cette rivière, la Largue, est protégée comme si c'était une ville. Par des riviéristes.
Chantal, vous parlez d'abord du concept d'un salarié qui s'appelle le riviériste, donc c'est un métier que je ne connaissais pas, mais apparemment, là, il est bien entré dans les mœurs chez vous. Et puis, la gestion d'une rivière comme une ville.
C'est-à-dire qu'on va la protéger du début à la fin de la rivière, comme si on protégeait, on va dire, un site naturel, en essayant donc de faire de la prévention. Et les riviéristes sont très présents et vont faire de la prévention. Comme ils vont faire de l'entretien, c'est-à-dire, admettons, on a un orage du jour au lendemain, il y a des arbres qui tombent, des zones glutineuses qui sont des arbres qui tiennent les rives des deux côtés. Alors, on va couper ce qu'il faut, on va protéger, surveiller la moindre pollution possible. Par exemple, replanter des haies avec des enfants donc qui seront accueillis chez nous à la Maison de la Nature pour lutter par exemple contre les coulées de boue qui sont provoquées par l'agriculture intensive. On a 10 000 journées participantes, que ce soit des écoliers, des collégiens, des lycéens, des handicapés, des EHPAD. On a aussi un lien avec Caritas pour accueillir un public en plus grande précarité. Et puis on a même un chantier international tous les étés. On a ce qu'on appelle, ça c'est une petite spécificité récente, un Stammtisch. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Bah alors, j'en ai entendu parler, le Stammtisch, mais alors vous allez me rappeler.
Alors, un Stammtisch, en Alsace, c'est très, très apprécié. C'est-à-dire, on s'assied autour de la table. Le tisch, c'est la table.
Oui.
Stamm, c'est qu'on va y être ensemble. Et on fait ça soit une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Donc, nous, on en a un qui s'appelle le Stammtisch jardinage, qu'on vient de lancer. Tous les deux mois, on se réunit. Et le premier qu'on a inauguré, si vous voulez, après tout ce confinement, ça a été sur le thème du hérisson. Parce qu'on a une jeune femme qui s'est installée au col du Buisson, que je vous conseille d'aller voir, qui a décidé de protéger les hérissons. Moi, je n'aurais jamais pensé que j'avais la grande chance d'avoir un hérisson dans mon jardin. Et ben oui.
Et ben voilà.
Et c'est la première chose à faire, ne pas faire de clôture, ne pas faire de barrière.
Ouais.
Voilà.
Ouais. On va retenir quand même les initiatives que vous proposez, elles sont nombreuses. Je rappelle, il y a une quarantaine d'activités chaque année, en moyenne 1500 participants, 7500 personnes qui passent par cette maison. Le mieux, c'est pour tout détail, vous allez sur le site de la Maison de la Nature, c'est maisonnaturesungao.org. Et oui, je dis Sungao, mais je devrais dire Sungo, plus simplement.
Sungo, mais c'est dans le sud de l'Alsace, ça veut dire sud de l'Alsace. Et on est à côté de la fameuse piste cyclable, mais à vraiment quelques mètres, qui va de Nantes à Budapest.
Ah oui,
donc,
en effet.
Si vous avez des vélos, allez-y, venez, pédalez, vous serez très très bien reçus. On a un petit jardin à l'extérieur, un jardin donc potager, mais aussi chaises longues à partir de récup, des livres en proposition, du jus de pomme maison, voilà. Et il y a une rhizosphère de l'autre côté et c'est très très joli.
Il y a un site, c'est maisonnaturesungo.org, adresse que vous avez retrouvée à nos pages d'émission. Merci pour l'invitation, Chantal.
Ah oui, avec plaisir. Hein. Donc les carprites, pour tous les gens qui ont envie de découvrir ça, et puis le jus de pomme local, je vous assure qu'il est excellent.
France Inter, carnet de campagne.
Nous avons reçu récemment un long courrier d'Yves, que je remercie au passage pour son engagement solidaire à la tête de l'association 100 pour 1 à Mulhouse. 100 pour 1 hébergement est une initiative qui a pris de l'essor depuis quelques années en France. Nous avons déjà rendu compte de ses missions dans différentes villes, dès la naissance d'ailleurs de la première antenne 100 pour 1. Pour rappel, ces associations recrutent des donateurs, des donatrices, qui moyennant un don de 5 euros par mois pendant un an, permettent de loger une personne ou une famille sans ressources. À raison de 100 personnes acceptant le processus, un logement solidaire peut être loué. Et l'association que préside notre correspondant, Yves à Mulhouse, a été une des premières à voir le jour en France. Devant la contagion, si on peut dire, de l'initiative, un réseau national vient de naître afin de regrouper toutes les entités et de renforcer la dynamique engagée. Le portail national a une adresse, c'est 100pour1.wordpress.com. Quant à l'association alsacienne, ce sont 140 personnes, dont la moitié des enfants, qui ont profité du service durant les 9 dernières années. Et comme Yves le signale, ces personnes sont aujourd'hui autonomes, elles ont un logement, elles ont du travail et n'ont plus besoin d'être accompagnées. L'antenne de Mulhouse héberge actuellement 18 familles de toute provenance et origine, car l'association, je cite, ne fait aucune différence entre les pauvres d'ici et d'ailleurs, entre les migrants légitimes et illégitimes. Je ne fais donc que reprendre le texte du credo de cette association qui a pour site et pour adresse 100pour1.org, 100pour1.org. Charles Benoît Heitzig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et président du Rameau. Alors c'est un étrange rameau, c'est un laboratoire de recherche empirique et sous statut associatif que vous avez créé en 2006. Et vous axez vos recherches, puisque vous êtes véritablement un collecteur d'informations, sur les partenariats public-privé dans des créations collectives. Vous pouvez nous apporter des précisions ?
Oui, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment associations, entreprises, collectivités territoriales, services de l'État peuvent agir ensemble pour relever nos défis communs. En 2006, ça paraissait étrange. Depuis 2015, avec les objectifs de développement durable, et notamment le 17e objectif de développement durable, c'est plus concret, c'est-à-dire comment finalement répondre ensemble aux défis économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, là où aucun des acteurs tout seul ne peut répondre, eh bien l'association, entre une association, une entreprise, un acteur public, un acteur académique, peut finalement inventer une solution pertinente.
Oui. Ça arrange souvent les pouvoirs publics d'avoir l'apport du privé dans des projets.
C'est pas seulement que ça arrange les pouvoirs publics, c'est que finalement chacun a un angle différent, une légitimité différente. Les associations au plus près des besoins et fondées par des femmes et des hommes motivés voient des choses que les entreprises ne voient pas ou que les acteurs publics ne voient pas. Et donc c'est bien une capacité d'associer finalement des compétences, des objectifs qui relèvent de chacun des acteurs et finalement en les faisant converger vers une action commune, eh bien on va pouvoir là encore faire en sorte de réussir ce qu'aucun tout seul ne veut faire parce qu'il n'a pas l'ensemble des angles de vue qui lui permettent de comprendre une situation.
Alors justement, vous avez un angle de vue plus large avec l'Observatoire des partenariats que vous avez fondé avec la Caisse des dépôts en 2008. Vous en rapportez plus de 1000 exemplaires inspirants que vous avez pu recenser sur les dernières années. C'est nous, régulièrement dans les carnets de campagne, on a l'exemple type de ces alliances publiques-privées et des particuliers, c'est-à-dire des collectivités, des entreprises et des particuliers. Ce sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ce ne sont peut-être pas les seules.
Alors, effectivement, ce sont bien sûr des exemples extrêmement inspirants, mais ce ne sont pas les seuls. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir un statut particulier pour entreprendre ensemble, pour expérimenter ensemble. Et c'est là où il nous a semblé important de pouvoir qualifier deux natures de situation. D'une part, les partenariats un peu innovants, justement, associations, entreprises, collectivités, et d'autre part, les écosystèmes territoriaux, c'est-à-dire les territoires qui se dotaient d'une capacité d'agir ensemble différemment. Et là, ça peut se traduire, bien sûr, par une diversité de formes d'organisation, mais c'est bien la volonté d'acteurs de profils différents de pouvoir s'associer pour répondre ensemble à un défi commun.
Des 1000 exemples que vous avez pu recenser, est-ce qu'on peut faire valoir des exemples types qui sont modélisables?
Oui, alors c'est tout l'enjeu de l'Observatoire des partenariats, c'est de pouvoir après pouvoir regrouper et finalement identifier des tendances de fond sur le sujet. On peut citer peut-être 3 tendances de fond avec un exemple associé. Sur la question, on peut commencer sur la question de la solidarité qui est aujourd'hui de plus en plus territorialisée, et on peut par exemple donner l'exemple de la fondation RTE qui depuis plus d'une décennie s'est donné comme objectif d'accompagner les territoires ruraux. Et par exemple, on peut prendre plus particulièrement l'une des dernières expérimentations qui a détecté dans le tiers-lieu Les Maziers à Bourbon-l'Archambault une capacité de mobiliser citoyens, associations, entreprises de façon extrêmement intéressante. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce tiers-lieu, c'est qu'il va lui-même fédérer et travailler avec les 30 tiers-lieux de l'Allier pour réfléchir ensemble, partager les bonnes pratiques et voir comment justement répondre de façon différenciée et précise d'un territoire à l'autre. On peut parler aussi des pratiques responsables, des entreprises qui évoluent de plus en plus vers une véritable coopération économique. On peut penser par exemple à l'alliance dynamique qu'a mis en place le groupe La Poste avec plus de 1500 exemples de partenariats, que ce soit sur la lutte contre la fracture numérique avec le groupe, avec la Croix-Rouge française par exemple, ou que ce soit sur la cohésion sociale et territoriale comme tous les travaux de médiation sociale qu'ils ont engagés depuis de nombreuses années avec les PIMS, les points d'appui médiation service. On voit bien là encore que on est en train de passer d'une pratique à une véritable volonté de coopération. Et puis dernier exemple, celle de la co-innovation, celle d'inventer ensemble des solutions, et on peut penser par exemple à la dynamique soutenue par le fonds ODD17, la dynamique d'entreprises de PME territoriales à Montargis, Percé3C, qui ont décidé de se lancer dans une vraie écologie industrielle et territoriale avec un recyclage de déchets qui mobilise entreprises d'insertion du territoire, associations de solidarité pour des déchets des entreprises, les trier, les recycler et des recyclages, pouvoir offrir 80 ordinateurs aux jeunes de Montargis qui n'ont pas d'ordinateur. Donc on voit dans ces 3 exemples, que ce soit à travers le mécénat, l'évolution des pratiques responsables vers la coopération économique ou l'innovation sociétale, qu'il y a vraiment une diversification des formes d'alliance, et ce qui est une bonne nouvelle parce que ça permet, quelle que soit la maturité de l'acteur, quels que soient ses objectifs, de pouvoir s'engager dans cette voie du jouet collectif.
Voilà, témoigner, innover et transmettre via le rameau. L'adresse, c'est le rameau.fr. Merci pour toutes ces informations.
Merci à vous.
Je vais vous annoncer des rendez-vous la semaine prochaine avec une bonne nouvelle. C'est le retour des bonnes nouvelles. Autrement dit, du café des bonnes nouvelles de Chambéry pour ses 10 ans. Rendez-vous mercredi 11 mai de 19h à 21h. À chaque fois, en ouverture, il y a un lâcher de bonnes nouvelles en vrac selon l'inspiration de chacun. Et dans la deuxième partie, il y a une thématique avec des témoignages. Et la thématique sera la transition alimentaire. Les territoires s'organisent pour produire local et nourrir leurs habitants. C'est mercredi 11 mai, 19h, 21h, à la Maison des Jeunes, la Culture, Faubourg, Montmélian, à Chambéry, pour les 10 ans des cafés, des bonnes nouvelles. Puis un mot sur le Volvestre, petit pays de Cocagne, à 45 km au sud de Toulouse, débordant de projets associatifs, selon les termes employés par Marilyn. Dans son courrier, notre correspondante nous annonce la création d'un festival consacré au polar. Ce festival prend le nom d'empreinte carbone, mais avec deux N, en référence à la ville qui l'organise, Carbone, 6000 habitants, Haute-Garonne, portée par la commune, donc quelques institutions et l'association Agriculture en Volvestre. Ce festival est centré autour du polar et de la justice. Avocats, magistrats, policiers, journalistes, historiens et une trentaine de romanciers seront présents à cette première. C'est du 12 au 16 mai. Le parrain de cette première édition est Olivier Norek et les éditions Kern qui fêtent leurs 25 ans seront mises à l'honneur. Empreinte carbone, donc avec deux N.fr. Et puis, je vous rappelle qu'il ne reste plus que 3 jours si vous voulez précommander le prochain guide des carnets de campagne avec 700 initiatives qui paraissent aux éditions Via Tao et aux éditions Radio France.